Bonjour et merci d'être fidèle au grand face-à-face tous les samedis. Vos rendez-vous jusqu'à 13h, la semaine des humoristes. Le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis, les nazis ont-ils survécu? La question peut choquer quelques jours après les cérémonies du 8 mai, la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie. C'est pourtant celle que pose l'historien Nicolas Lebourg dans un livre qui vient de paraître. Que reste-t-il du projet politique et de l'idéologie nazie dans des mouvements d'extrême droite chez nous en Europe ou aux États-Unis? Ce qui est sûr, c'est que la loi de Godwin et la comparaison avec Hitler ou le nazisme se portent très très bien dans le débat public et on vous promet de ne pas y céder. En tout cas, on essaiera et nous ouvrirons le débat tout à l'heure avec l'historien Nicolas Lebourg.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez le sentiment que ça s'agite en politique après une période de basse eau?
Est-ce qu'on est rentré dans la campagne électorale? Peut-être.
Enfin. Peut-être.
Oui, il semble en tout cas qu'il y ait un petit peu de débat. Pas sur le fond, hein, pas encore, hélas.
Surtout pas.
Mais au moins, ça s'agite un peu alors que l'électroencéphalogramme était totalement plat jusqu'à présent, donc on ne peut que se réjouir.
On en débattra tout à l'heure, avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde comme chaque semaine par François Audouin. Et une semaine où l'actualité était dominée par l'écologie et les élections européennes, et ça a commencé dès lundi sur CNews. Pascal Praud recevait Claire Nouvian, candidate PS Place Publique aux Européennes, compte rendu d'une émission pas comme les autres avec Tanguy Pastureau.
Pascal Praud donc a déclaré, je cite, « Le réchauffement climatique alors qu'il a fait moins 3 ce matin dans les Yvelines, donc bon 1 ». Fin de citation. Déjà quand Trump avait vu son neveu faire un bonhomme de neige en avril, il avait tweeté avec raison ses doutes. Il en avait profité pour ouvrir 1000 centrales à charbon et faire du dernier élan d'Alaska une très jolie paire de mocassins. Mais enfin, en France aussi on ose dire la vérité, Pascal Praud est notre guide. Il ose clamer tout haut ce que nous on ne pense même pas tout bas. Pareil, la disparition des abeilles, fake news. Si ça se trouve, elle se cache. L'abeille est joueuse. Ah bah, il faut les voir embêter Arnaud Montebourg quand il récure ses ruches. La terre qui tourne, ah bon. Et là, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui a envie de vomir. Comme par hasard. Hein, dire qu'on a organisé le G7 de l'environnement pour rien, François de Rugy aurait pu partir en week-end peinard avec sa femme. Si divorce, il faudra s'en prendre aux scientifiques. Il y en a marre de ces gens. Ou comme dirait Pascal Praud, je cite, donc bon, un.
L'écologie à l'honneur dans cette campagne des Européennes, une campagne qui a emmené Marine Le Pen jusqu'en Belgique, Alex Vizorek.
Ce matin, je vais vous parler de politique belge, parce que figurez-vous que ça intéresse les Français, par exemple Marine Le Pen, exceptionnellement de passage à Bruxelles, pour une conférence de presse avec un parti belge.
Je viens ici très clairement lancer un appel aux francophones de Bruxelles, pour leur dire de voter pour le Vlaams Belang.
Déjà de quoi je me mêle, hein. Je pensais qu'elle détestait qu'on s'immisce dans les affaires politiques d'un autre pays, mais apparemment le souverainisme n'est plus dans son programme. Donc Marine Le Pen appelle les francophones de Bruxelles à voter Vlaams Belang, ce qui prouve qu'elle est aussi fine en géopolitique belge qu'en psychologie de la relation père-fille. Petite leçon de néerlandais, Vlaams, ça veut dire flamand, Belang, ça veut dire intérêt. Donc elle appelle des francophones à voter pour un parti qui s'appelle littéralement les intérêts flamands. En gros, c'est comme si l'ours Sorita tenait une conférence de presse appelant à voter chasse, pêche, nature et tradition.
Et les contradictions qui se trouvent également dans le programme du Rassemblement National. Écoutez Guillaume Meurice, il a demandé des précisions à des militants RN.
Parlons du fond, l'Europe, hein, parce qu'on est là pour l'Europe. Et au Rassemblement National, ils voulaient à un moment donné sortir de l'euro et de l'Europe. Mais alors là, plus rien à voir, ils ont tout changé, rien à voir.
Ah non, c'est pas sortir d'Europe, c'est sortir de l'Union Européenne.
Oui, mais alors comment sortir de l'Union Européenne en restant quand même dans l'Europe?
Mais comment ça? On peut rester dans l'Europe, mais à ce moment-là, on retrouve notre souveraineté comme c'était à l'origine avec le marché commun.
Il n'y a plus de Parlement européen, là?
Eh ben, il y a un Parlement européen qui fera les lois.
Mais s'il y a un Parlement européen qui fait les lois, ça veut dire qu'on n'a plus tout à fait notre souveraineté.
Ah non, ça ne sera pas le Parlement européen qui fera les lois.
Ah ben, c'est ce que vous venez de me dire l'inverse.
Non. Ah non, on s'est mal compris, là.
Je crois qu'on pige pas bien. Hein, alors, c'est pas grave, on peut changer d'avis aussi. Ils ont changé d'avis, tout le monde peut changer d'avis. Le tout, c'est de l'assumer.
On a changé, on s'est adapté. Vous-même, dans votre vie sentimentale, vous avez Katio, une personne avec qui vous allez être. Et puis un jour, vous changez d'avis.
Eh ben c'est comme ça, la politique, c'est comme l'amour. Hein, ça vous fait changer d'avis, ça vous emballe, ça vous dévore. Comme dirait Nathalie Loiseau et Jordan Bardella, ça fait fureur.
Et enfin, la liste du Rassemblement National qui était épinglée par le Canard Enchaîné cette semaine avec de nombreux candidats en proie à des démêlés judiciaires. L'analyse de Charline Vanhoenacker.
Et on commence par la tête de liste, Jordan Bardella, soupçonné par l'Office européen antifraude d'usage irrégulier de l'indemnité d'assistant parlementaire. Bardella, si jeune et pourtant déjà si prometteur. Dominique Bild, quatrième de la liste, est soupçonné d'emploi fictif au Parlement européen. Bon, si ça se trouve, c'est un soupçon fictif, hein, ça on ne sait pas. Castaner est soupçonné d'être en charge de la sécurité des Français, alors. À la septième place, Nicolas Bay est mis en examen pour détournement de fonds publics. Bon, c'est des choses qui arrivent. Catherine Griset, numéro 10, mise en examen pour abus de biens sociaux et recel. Bon, alors moi, une fois, la caissière du Monoprix m'a rendu 20 centimes de trop, je les ai pas rendus non plus. Les Français ne connaissent peut-être pas tous les candidats RN, mais le monde judiciaire, oui, et ça fait déjà un petit socle électoral. Cette liste, c'est une note d'espoir pour tous les apprentis délinquants de France. Ne désespérez pas, une liste Rassemblement National peut sans doute vous accueillir.
C'était la semaine des humoristes d'Inter. À suivre dans le grand face-à-face, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
C'est en tous les cas, par rapport à d'autres possibilités données aux minorités, je pense à la saisine du Conseil constitutionnel, naturellement une forme de troisième tour au-delà de la démocratie représentative et un risque d'affaiblissement de cette démocratie représentative.
Gérard Larcher, le président du Sénat, était l'invité de Nicolas Demorand hier sur Inter. Il y a maintenant les signataires. Le Conseil constitutionnel a donc validé la proposition de loi qui permet d'organiser un RIP, un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Il faut maintenant les signatures d'au moins 4 700 000 électeurs pour parvenir à enclencher l'arrêt définitif du processus. Quand vous entendez Gérard Larcher dire « c'est un risque d'affaiblissement de la démocratie représentative », il a raison, Gilles.
C'est assez surprenant parce que qui a introduit la procédure de référendum d'initiative partagée dans la Constitution? C'est Nicolas Sarkozy. Quel est le parti qui s'est associé à cette procédure de référendum sur la privatisation d'ADP? Ce sont les Républicains, et notamment les Républicains au Sénat. Donc c'est surprenant et surtout je crois que c'est discutable. Parce qu'autant on peut s'opposer à la substitution d'une procédure de démocratie directe à la démocratie représentative, là il y a une articulation puisque l'initiative est une initiative parlementaire à laquelle doit s'adjoindre de nombreuses, vous l'avez évoqué, signatures des citoyens. Et en fait, le problème est moins l'existence de cette procédure que sa difficulté.
Natacha.
C'est surtout que cette réflexion de Gérard Larcher nous fait toucher du doigt un des problèmes cruciaux aujourd'hui, la question de l'efficacité de la démocratie représentative dans son état actuel pour représenter la volonté populaire.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que, par exemple, les privatisations qui ont eu lieu sous Lionel Jospin, la privatisation des autoroutes, qui est un scandale absolu, tout cela a fait partie des éléments qui ont été mis en avant, notamment sur les ronds-points pendant la crise des Gilets jaunes. Parce qu'il y a là le sentiment pour les citoyens qu'on les dépossède d'une part du bien commun et qu'on ne leur demande pas leur avis.
Et alors justement, référendum pourrait être organisé, vous applaudissez ?
Ce référendum n'aurait jamais été porté par des députés s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes et si la question des autoroutes n'avait pas ressurgi à cette occasion-là. Donc on ne peut que se réjouir que certains députés se souviennent qu'ils sont censés représenter les citoyens. Mais quand des députés n'utilisent pas les armes qu'ils ont pour représenter et mettre en avant la volonté populaire, alors il y a un problème et un risque de décrédibilisation de la démocratie représentative.
Gilles. Oui, enfin, il ne faut quand même pas s'emballer non plus, parce que là...
Le référendum n'aura probablement pas lieu.
Ah non, bien sûr.
Mais évidemment que le référendum n'aura pas lieu. Et il n'aura pas lieu, d'abord parce que 4 717 000 signatures, c'est ça, le seuil qui est requis. Jamais aucune pétition n'a même recueilli la moitié de ce score-là. Mais au-delà, même si c'était le cas, je le redis, une fois que la procédure est validée par le Conseil constitutionnel, que les citoyens ont signé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Parlement a 6 mois pour se saisir du texte, faute de quoi il y a un référendum. Autant dire que ce référendum n'aura jamais lieu.
On est bien d'accord, mais c'est cela qui est le plus dingue. C'est-à-dire que cette procédure est totalement verrouillée pour faire en sorte de ne pas mettre en danger la démocratie représentative et on va dire, son absence de représentativité parfois. Donc, les politiques n'ont aucune raison d'avoir peur. En revanche, il faut se méfier. C'est-à-dire que sur un sujet comme celui-là, qui est devenu un sujet éminemment symbolique, les élus devraient se rendre compte qu'il faut écouter la volonté des citoyens.
Un mot encore avant de passer aux européennes. C'est un enjeu éminemment symbolique ou éminemment politique pour vous, Gilles? Demander au peuple éventuellement son avis sur la privatisation des aéroports de Roissy et d'Orly.
C'est symbolique, mais c'est évidemment politique puisque c'est un choix d'orientation et un choix dans lequel il y a une dimension stratégique sur le rôle de l'État et l'aménagement du territoire. Donc ce n'est pas que symbolique. J'ajoute que si il y avait plusieurs millions de signatures qui étaient recueillies, peut-être que ça ne déboucherait pas sur un référendum, mais dans le rapport de force, ça aurait du poids.
Natacha.
Quand je dis que c'est symbolique, je veux dire par là que cela résume à peu près toutes les dérives que l'on reproche aux décisions politiques depuis des décennies. C'est-à-dire le fait que l'État se départit de ce qui appartient à la puissance publique, de ce qui lui permet d'agir et n'a aucun sens de la préservation de la souveraineté. C'est cela qui se ressurgit sur la question des aéroports.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Emmanuel Macron a choisi de ne plus être président de la République, mais d'être président de parti et en l'occurrence chef de campagne. Il transforme donc volontairement et de son fait cette élection européenne en référendum pour ou contre lui.
C'est un référendum bien sûr pour ou contre Macron, mais parce que la politique qu'il mène au niveau français n'est pas déconnectée de la politique qu'il mène au niveau qui est menée au niveau européen.
Vous avez reconnu évidemment la voix de Marine Le Pen et celle de Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes. On est à 15 jours seulement avant le scrutin du 26 mai. C'est une drôle de campagne. On a l'impression qu'aucune liste ne s'impose dans les sondages. On va en parler dans un instant. Mais certains voudraient en faire un référendum pour ou contre Macron. Est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que c'est comme ça que ça va se terminer, Natacha?
Non, mais il y a des instrumentalisations politiques de tous les côtés. Marine Le Pen se saisit de cela en effet pour en faire un référendum pour ou contre Macron, mais elle a beau jeu d'expliquer que c'est Emmanuel Macron qui joue ce jeu aussi. C'est-à-dire qu'il tente dans une espèce de stratégie de sauvetage, il y a le feu au lac, donc que fait-on? Ben, on ressort la carte préservation de la démocratie contre le risque populiste, le risque du chaos. Réellement c'est un cadeau à faire à l'Union européenne et aux citoyens qui devraient avoir conscience des enjeux européens que de positionner le débat là-dessus.
Gilles,
dire que c'est un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Emmanuel Macron, la liste de La République en marche, n'a pas 50% des voix, il doit démissionner? C'est ça la logique. Et donc on est sur une succession d'enjeux nationaux qui n'ont pas beaucoup de sens. L'enjeu le plus probable est de savoir, sur l'enjeu national, qui va arriver en tête. On pourrait dire que l'enjeu réel plus important au niveau national et de savoir si les partis qui soutiennent, disons, le cadre européen depuis sa création sont majoritaires ou pas. Mais je veux dire quel est pour moi l'enjeu aujourd'hui de cette élection. Et sans doute qu'on n'aurait pas pu dire ça il y a un mois ou il y a deux mois. Avant de le formuler, je prends mes précautions. Vous allez, ne me prenez pas.
Nous sommes tout oui.
un illuminé. Mais c'est après un examen rigoureux des chiffres. L'enjeu est de savoir si les socialistes, les sociodémocrates ne peuvent pas gagner cette élection au Parlement européen.
Hein ?
Oui, je vous vois.
C'est
ouvrir,
illuminé.
Je vous vois ouvrir des yeux tout ronds. C'est improbable. On n'aurait jamais pu dire ça il y a quelques semaines. Il était acquis que le Parti populaire européen, les conservateurs, auraient la majorité. Il s'est passé deux choses depuis. D'abord, il y a eu un rebond électoral des sociaux-démocrates dans les élections. Il y a eu deux élections qui se sont passées il y a quelques semaines, en Finlande, en Espagne. Les sociaux-démocrates les ont emportés et la droite s'est affaissée. Il va y avoir des élections au Danemark, c'est à peu près la même situation. Et il y a un deuxième élément que cette semaine, que personne n'a relevé, c'est le retour des Britanniques. Les Britanniques vont voter au Parlement européen.
Oui, ce qui est fou.
Les conservateurs britanniques ne sont pas affiliés au Parti populaire européen. Et les travaillistes britanniques sont affiliés au Parti socialiste européen. Quand on regarde ce qu'est le rapport de force aujourd'hui, en prenant l'ensemble des sondages des 27 et même des 28 pays. Vous avez des 27 pays, ça fait 180 sièges à peu près pour le PPE. 160 sièges à peu près pour le PSE. Si on ajoute les Britanniques, eh bien, ce qui paraissait impossible ne l'est plus.
Ce qui était impossible aussi, c'est que des Britanniques emportent deux finales de Coupe d'Europe au foot, et pourtant, c'est ce qui va se passer.
Oui, enfin,
c'est
cela,
ça l'enjeu,
cela
c'est celui
dit,
que vient de
si
dire Gilles, Natacha.
Alors, de fait, si on regarde réellement le rôle de cette élection, c'est bien ça l'enjeu. Nous sommes d'accord. À ceci près que si c'est le PSE qui l'emporte, leur candidat est Timmermans, c'est-à-dire quelqu'un qui poursuivra.
Candidat pour la présidence de la Commission.
Oui, pour la présidence de la Commission, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la même idéologie, qui poursuivra les mêmes politiques et la même vision de l'Union européenne que ce qui a été fait depuis des années. Donc il n'y aura aucun changement et c'est bien le problème absolu de ces élections, à savoir qu'elles donnent l'impression aux citoyens des différents pays européens que même s'il y a des choses importantes votées au Parlement, même si on peut voter l'interdiction de la pêche électrique, ça n'a l'air de rien, c'est fondamental, d'accord, mais la politique globale, la politique économique risque d'être la même.
Est-ce que malgré tout,
en désaccord avec Natacha, quand même d'un mot, là où c'est juste, c'est que si, par extraordinaire, et ce n'est plus impossible, les sociodémocrates arrivaient en tête au niveau européen, ça ne veut pas dire qu'il y aurait une coalition de gauche et ça ne serait pas un changement fondamental. En revanche, si par hasard Franz Timmermans, à la suite de cette élection, devenait président de la Commission en lieu et place de Manfred Weber, qui est le candidat du PPE, qui est un candidat non seulement allemand, non seulement CDU, mais un candidat de la CSU, c'est-à-dire de l'aile droite des démocrates chrétiens allemands. Eh bien, entre Barroso et Juncker, c'était pas la même commission. Et donc, entre Timmermans et Manfred Weber, ça serait pas la même commission. Donc, ça changerait pas radicalement, mais ça changerait quand même au-delà du margin allemand.
Et ça, non, c'est quelque chose qui va se décider entre les chefs d'État, probablement, et les chefs d'État de l'Union européenne.
Oui, mais les électeurs ont leur mot à dire, parce que selon les résultats, eh bien, le choix des chefs d'État et de gouvernement ne sera pas le même.
Malgré tout, Natacha a raison quand elle dit que Franz Timmermans, c'est pas forcément un changement radical de politique, dans la mesure où c'est le premier vice-président de la Commission européenne, premier vice-président de la Commission, donc de Jean-Claude Juncker, et qu'il est prêt à des alliances avec les démocrates et les libéraux, donc avec le camp que rejoindraient les élus de La République En Marche, les élus de la majorité présidentielle française.
Mais enfin, regardons objectivement les choses. Vous n'aurez aucun parti n'aura à lui seul la majorité. L'Europe ne pourra être gouvernée que par des coalitions. C'est vrai au Parlement européen, mais ça va être encore plus compliqué à la Commission, parce que qui nomme les commissaires? Ce sont les chefs d'État et de gouvernement de chacun des pays. Et donc, dans cette commission qui sera beaucoup plus difficile à piloter que la commission précédente, eh bien, les Hongrois, les Polonais, les Italiens nommeront un commissaire qui seront assez peu des commissaires progressistes.
Natacha.
Oui, il faudra faire avec. Du coup, on ne s'étonne pas qu'il y ait très peu de citoyens français qui se disent intéressés par ces élections, puisque quoi qu'il arrive, cette commission continuera à négocier des traités de libre-échange dans le dos des citoyens. Quoi qu'il arrive, cette commission refusera de mettre en place des protections aux frontières de l'Europe, de remettre en place la préférence communautaire. Donc tout ça ne changera rigoureusement rien à tout ce qui a fait que l'Europe est en train de se désindustrialiser, est en train de perdre une part, est en train de paupériser ses classes moyennes. C'est tout ça qui est en jeu derrière.
Et je reprends malgré tout mon idée de référendum pour ou contre Macron. Écoutez le principal intéressé, le président de la République.
Ne vous laissez pas voler l'Europe. Ne vous laissez pas voler l'Europe. Moi, je pense très souvent à la jeunesse britannique. La jeunesse britannique, elle s'était désintéressée du Brexit. Elle a considéré que c'était pas son affaire, qu'une fois encore, la jeunesse, elle n'allait pas voter, etc. Et la jeunesse britannique, elle s'est réveillée le lendemain avec la gueule de bois.
C'est donc le président de la République qui s'exprimait depuis Sibiu en Roumanie pour dessiner l'Europe de demain. J'aimerais juste, avant de changer de sujet, qu'on s'arrête un instant sur cette question de référendum pour ou contre Macron, encore une fois. Est-ce que c'est pas finalement le moyen de mobiliser?
Si.
Mobiliser des électeurs qui traditionnellement s'abstiennent à ces élections européennes.
Je ne sais pas si c'est le moyen de mobiliser. En tout cas, c'est le moyen de mobiliser pour Emmanuel Macron ses propres électeurs. S'il réussit à faire en sorte que l'enjeu déterminant, principal, premier de cette élection, c'est de savoir qui arrive au niveau national en tête entre le Rassemblement National et La République En Marche, c'est un moyen de créer une sorte de vote utile et peut-être pour La République En Marche de repasser devant. Donc, dans une approche purement tactique, c'est un moyen de mobiliser son camp.
Natacha.
Oui, en effet, dans une approche purement tactique. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'est question du fond, des choix européens et de la possibilité d'appliquer ce qu'il y a dans les programmes de chaque liste. Parce que c'est ça le sujet.
C'est un autre problème, évidemment, mais de savoir quelles sont les compétences du Parlement européen et des parlementaires européens. Mais quand vous voyez arriver dans tous les programmes ou presque l'écologie, la préoccupation écologique, ça vous fait sourire, Natacha, ou c'est finalement qu'il se passe quelque chose dans le débat public et dans la vie politique en France, à savoir un changement de paradigme. Tous les partis aujourd'hui doivent tenir compte de cette préoccupation-là, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années.
J'ai envie de vous dire les deux. C'est-à-dire que oui, il y a un changement majeur de paradigme et on ne peut que s'en réjouir. C'est-à-dire que quand 80% des insectes ont disparu, on peut être soulagé de voir qu'en effet, ça fait enfin tilt dans la tête, non seulement d'ailleurs des politiques, mais des citoyens. C'est-à-dire que là, on ne peut plus éviter cette question-là. Sauf que il s'agit derrière de se poser la question de la responsabilité politique, des choix et de ce qui doit être fait pour essayer d'enrayer. Or, quand il s'agit du climat, là, c'est à peu près facile. C'est-à-dire qu'on a des États qui peuvent décider qu'on se réunit, on s'échange des droits à polluer, tout va bien. Alors, la question de la biodiversité, elle nous oblige à réfléchir à notre modèle urbanistique, économique, notre modèle de développement. Et là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire l'économie d'un changement absolument radical.
Vous avez fait une remarque justement sur la manière dont le territoire français était bétonné.
Bien sûr.
Et c'est assez sidérant, mais rappelez les chiffres.
On a bétonné l'équivalent d'un département en 15 ans, un département entier. C'est-à-dire qu'on recouvre de goudron, on artificialise aujourd'hui un stade de foot toutes les 5 minutes en France et sur les meilleures terres, sur les terres arables. Pourquoi ? Parce que c'est autour des villes. Les villes se sont créées à l'endroit où les terres étaient bonnes. Donc quand on bétonne, c'est sur les meilleures terres. Dans 30 ans, ça se paiera en termes de capacité à nourrir les populations.
Gilles ?
Oui, il y a l'élément nouveau depuis maintenant quelques mois, c'est le fait que pour les citoyens, la question environnementale est une priorité majeure et notamment une priorité majeure pour l'Union européenne. Ce faisant, la plupart des listes, c'est pas vrai de toutes, mais disons sur un grand arc qui va de la France insoumise à la République en marche pour l'essentiel, on fait de la question écologique avec des différences entre elles, mais une question plus importante que cela n'était le cas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et donc de ça, je crois qu'on ne peut que se réjouir. La question derrière est de savoir quels sont les moyens que l'on y met, pas seulement les ambitions que l'on se fixe, et surtout de savoir jusqu'à quel point on est capable de remettre en cause à la fois un modèle économique et d'accompagner socialement cette transition, parce que ce que tous les événements récents ont montré, c'est que si on n'accompagne pas socialement, eh bien, il n'y aura pas de transition.
Un mot encore, Natacha.
Souvenez-vous de la démission de Nicolas Hulot sur cette antenne. Il expliquait son constat que, selon lequel, tout simplement, la transition écologique n'est pas compatible avec le modèle économique de libre-échange généralisé, avec la division mondiale du travail qui existe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces échanges-là impliquent une consommation des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d'énergie, l'urbanisme, l'extension de l'urbanisme absolument partout, et ça a des conséquences sociales. C'est-à-dire, en effet, les deux sont liés, mais c'est simplement ce modèle de développement qui ne peut pas fonctionner. Or, est-ce que vous voyez dans certaines listes la remise en cause de ce modèle ? Non.
Gilles.
Ouais, sur la question de l'artificialisation des sols, je crois que les sols, c'est un des grands enjeux politiques du 21e siècle.
Bien sûr.
On ne peut pas se fixer comme objectif qu'il n'y ait plus aucune artificialisation. En revanche, on peut se fixer comme objectif, en France, qu'il y ait zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que dès qu'on artificialise un sol, on doit compenser en rendant du sol ailleurs. C'est une vraie révolution en termes d'aménagement du territoire, en termes de conception de l'urbanisme, avec un autre enjeu derrière qui est celui, c'est vrai en France, mais c'est vrai davantage encore ailleurs dans le monde, de l'accaparement des terres, de l'accaparement des sols, derrière lesquels il y a des questions de misère, d'injustice. Et c'est là où on voit que ces questions-là lient toujours un modèle économique, l'environnement et un modèle social.
Natacha, avant de tourner la page.
Fin 2017, il y avait au sein de La République En Marche, un député, Patrick Vignal, qui se battait pour un moratoire sur les grandes surfaces. Il n'a pas été entendu parce que Bercy a expliqué que ce serait contraire à la liberté de commerce. Donc en 2018, il y a eu 931 000 mètres carrés supplémentaires de grandes surfaces en France, alors que nous sommes un des pays qui en a déjà le plus. Là, c'est une décision politique, ça venait du camp de La République En Marche. Pourquoi ?
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
France Télécom a été un peu un laboratoire à expérimenter une politique violente, délibérée, pour supprimer 22 000 emplois sans plan social, sans négociation. On disait simplement, cassez-vous. Voilà, c'est cette violence-là qui était inacceptable. Il faut faire 22 000 suppressions d'emplois, coûte que coûte, par la porte ou par la fenêtre. C'est la phrase de Didier Lombard qui a résonné dans tous les services pendant très longtemps quand même. Il y a des gens qui ont vraiment subi dans leur chair cette violence au point d'aller jusqu'au suicide.
Patrick Ackermann de Sud PTT, qui était le premier témoin à s'exprimer au moment du procès France Télécom. Sept prévenus, dont l'ex-PDG Didier Lombard, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre de la vague de suicides de salariés entre 2007 et 2010. Cette information, c'est ce sur quoi vous vouliez insister cette semaine, Gilles. Pourquoi ?
Oui, c'est un procès hors norme. C'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40, y compris son ancien président directeur général, est poursuivie pour des faits de harcèlement moral. Et c'est, je crois, au-delà de la question juridique qui va être tranché par le procès. L'histoire d'un dérèglement qu'il est intéressant d'analyser. France Télécom a été une entreprise qui objectivement s'est trouvée dans une situation difficile parce qu'elle était en proie à une série de mutations technologiques avec l'irruption du mobile, de changements statutaires avec la privatisation, de changements d'un cadre réglementaire avec la mise en concurrence, et elle a réagi très fort, les 22 000 suppressions d'emplois qu'on vient d'évoquer, et très vite, avec un horizon qui était très court. Ce faisant, des conséquences qui ont été extrêmement dommageables, et la question, je crois, qui est intéressante pour nous, est de savoir, c'est un dérèglement de quoi ? Est-ce que c'est un dérèglement du système ? Pour partie, oui, mais fondamentalement, je crois que c'est un dérèglement des hommes. C'est-à-dire que la manière dont France Télécom, à l'époque, a géré cette situation, est fondamentalement à l'origine de ce qui s'est passé, et c'est plutôt réconfortant parce que ça montre que les hommes peuvent encore agir.
Natacha.
Je ne serais pas tout à fait sur cette position-là. Je pense que c'est un dérèglement aussi du système. En particulier en majorité du système, dans le sens où c'est le système qui facilite la possibilité pour certains de concevoir les rapports sociaux de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est parce qu'on choisit de déréglementer, c'est parce qu'on choisit de libéraliser des services publics qu'on est obligé de le faire de cette façon, parce qu'on a en ligne de mire la performance, la concurrence, et c'est tout ça qui aboutit à ce que chacun, pour faire ce qu'il croit le mieux, oublie totalement, tout simplement, le facteur humain.
Alors qu'il y ait une responsabilité du système, je l'ai moi-même dit, et évidemment, qu'il n'y ait qu'une responsabilité du système, non. Parce que si tel était le cas, dans toutes les autres entreprises qui subissent la même concurrence, dans France Télécom devenue Orange aujourd'hui, eh bien, il y aurait exactement les mêmes difficultés que celles qu'on a connues. Or, le travail qui a été fait par les successeurs de l'équipe de Didier Lombard ont montré que d'autres relations sociales, un autre rythme de mutation était possible. Et quand vous avez aujourd'hui plus de 90% des salariés d'Orange qui disent être fiers d'appartenir à leur entreprise, ça montre que la manière dont on gère une entreprise, c'est important. Et que les difficultés aujourd'hui, et il y en a chez Orange, c'est moins des difficultés internes que des difficultés qui sont liées, pour le coup, à la concurrence du système.
Natacha.
Certes, mais à échelle globale, on s'aperçoit que la conception même que l'on a aujourd'hui de l'emploi et du travail, et ce sont deux notions différentes, a évolué, et que il y a une souffrance accrue dans la mesure où cette pression, ce rôle de la performance est en train de s'étendre absolument partout. C'est une logique, c'est une vision de ce qu'est le travail pour un être humain qui est en train de changer. Je pense qu'il faut en prendre la mesure.
Oui. D'un mot, la Fondation Jean Jaurès a fait, il y a quelques mois, une enquête sur la souffrance au travail.
Enfin, l'autopromo, je plaisante.
Surtout sur ce sujet-là.
Mais vous faites du bon travail.
Sur la souffrance au travail, octobre 2018, 1000 salariés actifs.
justement là-dessus. Et on l'a fait après que David Graeber a fait son livre qui s'appelait Les Bullshit Jobs. Ce sentiment d'inutilité que ressentaient 40% des salariés britanniques qui avaient le sentiment, alors même que parfois ils étaient bien payés, que ce qu'ils faisaient ne servait à rien. Et on a vu, si je le résume d'un mot, la conclusion, c'est que le problème des salariés français est moins un problème de sens. Ils trouvent que ce qu'ils font est utile, utile pour la société, utile pour l'entreprise, qu'un problème de reconnaissance. 44% seulement d'entre eux ont le sentiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur.
Vous en avez parlé dans Marianne ?
Nous en avons parlé dans Marianne, bien sûr.
J'espère. C'était pour rétablir l'équilibre.
Voilà, je l'avais compris.
Et c'est à suivre dans le grand face-à-face maintenant, le débat avec l'historien Nicolas Lebourg.
France Inter. Le grand face-à-face. Le débat.
Les nazis ont-ils survécu ? La question peut choquer à la fin d'une semaine qui était marquée par la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie. Question peut-être absurde, puisque la plupart des nazis ont aujourd'hui disparu. C'est pourtant celle que pose un historien spécialiste de l'extrême droite dans un essai passionnant qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Bonjour Nicolas Lebourg.
Bonjour.
Vous publiez « Les nazis ont-ils survécu ?» C'est une grande enquête sur les internationales fascistes, les croisés de la race blanche pendant la guerre froide, je le précise, et donc à une époque où, évidemment, des nazis étaient encore bien vivants et qui avaient survécu à la chute du Troisième Reich, ils n'étaient pas les seuls. Parce que Nicolas Lebourg, vous êtes un historien très sérieux, mais vous êtes aussi un fan des Avengers et de Marvel. Et en l'occurrence, oui, les nazis ont survécu à la chute du Troisième Reich à travers une organisation qui s'appelle Hydra et que combattent les Avengers. Ça, c'est pour la fiction, mais dans le monde réel, en l'occurrence, pourquoi poser cette question ? Les nazis ont-ils survécu ?
Parce qu'on parle toujours sur l'après-seconde guerre mondiale, on passe sur la guerre froide et on a un certain nombre tous de stéréotypes. Moi le premier à la base, les nazis vont aller travailler pour les Américains, ce genre de caricature. Là on voit par exemple que justement la CIA agit sur Franco pour l'empêcher d'aider les internationales noires qui se constituent. Ça va un peu à rebours, mais c'est ce que montrent les archives. Et que ce rôle des nazis après-guerre, des collaborationnistes après-guerre, il est intéressant parce qu'ils vont monter effectivement des internationales qui sont des partis assez d'avant-garde. On voit le leader...
D'avant-garde
le leader historique du fascisme britannique qui, dès l'après-guerre, dit qu'il faut une assemblée européenne élue au suffrage universel direct, par exemple. La façon dont ces internationales sont constituées, d'une manière en fait complètement transnationale, un certain nombre recouvrent l'ensemble de ce qu'elle pourrait appeler le monde blanc, est quelque chose d'assez avant-gardiste par rapport à l'avancée de la globalisation.
Et c'est vrai que quand on entend cette question, on pense évidemment à ce qu'il peut rester aujourd'hui du projet politique, de l'idéologie nazie dans des mouvements d'extrême droite, évidemment en Europe. On pense évidemment aussi à ce qui peut exister aux États-Unis. Ça permet aussi de comprendre ça.
Ça permet, de comprendre l'évolution idéologique. Avec cette question, la façon dont, depuis le 19e siècle, essentiellement, s'est constituée les idéologies racistes, le mythe aryen, c'était pas le mythe de la race blanche. Il y a souvent aujourd'hui une confusion. Les nazis n'étaient pas pour la race blanche. Ils considéraient que les Slaves étaient des sous-hommes. Et ce qui est passionnant, je crois, c'est que durant la Seconde Guerre mondiale, cette idéologie permute vers une idéologie des espaces beaucoup plus ou vers une idéologie de la race blanche. Et là, il va y avoir une entente avec l'idéologie sudiste américaine. Et que ces transferts-là nous permettent de comprendre comment se sont réorganisés les rapports entre nations, continents, races à l'échelle globale.
Natacha.
Et ce qui est passionnant, c'est en effet qu'on voit aujourd'hui l'aboutissement de cela, c'est-à-dire de cette reformulation en termes d'espace, en termes de lutte contre une supposée invasion, des choses comme ça. Et c'est là qu'on retrouve en fait la déclinaison actuelle. Vous terminez quasiment le livre sur la question de l'évolution avec Alain Soral du Front National, sur la question de la réponse à la montée de l'indigénisme, des indigènes de la République, toute cette problématique qui fait qu'on a une destruction de l'universalisme par les deux bouts. C'est ça que nous voyons aujourd'hui à l'œuvre.
Nicolas Lebourg.
J'en suis tristement d'accord. Le parti des indigènes de la République, qui est très très loin, bien évidemment, on peut dire au départ d'un tel sujet, c'est intéressant parce que quand on regarde au fond, il a une vision du monde qui est plus proche de certaines internationales nationalistes révolutionnaires, certains courants de l'extrême droite, que c'est les positions de la gauche. Oui, je crois, parce que par exemple, le Front Européen de Libération, qui était une internationale noire qui se revendiquait du fascisme, défendait par exemple, contre un système cosmopolite, contre l'ordre américano-sioniste, des ententes entre communautés fermées, comment dire, racornis sur leur identité, moi j'aurais tendance à dire, à ce stade, parce que c'est ce qui permet de détruire le libéralisme. Donc il y a des choses qui sont intéressantes, c'est pas un livre là-dessus.
Non, mais dans c'est la conclusion c'est vrai que de votre livre. D'autant que ce à quoi on pense plutôt, c'est ce qu'évoquait Natacha et ce dont vous parlez, à savoir l'idéologie de Soral, ceux qui veulent préserver la pureté du monde blanc. On dit que c'est là que réside ce qui reste du projet politique du nazisme.
C'est justement là-dessus que je voudrais intervenir. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez la grande plasticité de l'idéologie nazie. Sa capacité à, pour s'adapter, changer jusqu'à trahir ce qu'était son idée originelle, vous l'avez évoqué, sur le passage de la race aryenne à la race blanche. Et en même temps, vous en montrez les continuités. Continuité de la dangerosité, vous citez ce chiffre qui est fascinant, que depuis le 11 septembre aux États-Unis, les trois quarts des violences politiques ont été le fait des suprémacistes. Continuité dans l'obsession de la pureté de la race. Et la question... C'est là où on en vient à Soral. Est-ce que vous avez le sentiment que, c'est, que le mythe, la théorie du grand remplacement est aujourd'hui une sorte de substitut à ce qu'était ou de transmutation de ce qu'était cette idéologie à l'origine ?
Nicolas Lebourg.
Alors, je crois que vous mettez le doigt dans la question. Effectivement, ce qu'on observe, quand on regarde dans le temps, c'est que juste après la Seconde Guerre mondiale, on va retrouver un certain nombre d'anciens SS collaborationnistes qui vont dire la Seconde Guerre mondiale, c'était le fait des Juifs qui ont utilisé les États-Unis, l'Union soviétique pour détruire l'Europe. Aujourd'hui,
vraiment ?
Oui, c'est ça qu'ils disent, c'est leur interprétation de la Seconde Guerre mondiale. Ils disent, aujourd'hui, les armées noires, c'est-à-dire américaines, et mongoles, c'est-à-dire soviétiques, occupent l'Europe, et la dernière phase va être la destruction de la race blanche européenne par l'immigration africaine, arabe, etc. Et c'est ce discours-là, et c'est là qu'on trouve les premières occurrences dans l'extrême droite française du mot mondialisme. On dit que c'est un projet mondialiste fait par les Juifs pour faire un monde à plat dont Israël est la base territoriale. Alors ça, c'est tout à fait passionnant parce que ces discours sur le mondialisme, effectivement par destruction, remplacement des peuples européens, c'est quelque chose qui a mené sa vie dans les extrêmes droites jusqu'à finir par une version à laquelle on a enlevé la causalité complotiste antisémite et qui est devenue tout à fait mainstream à ce moment-là, après le 11 septembre. Et vous le rappeliez, à un moment où justement remonte la violence politique en Occident.
Quand vous parlez de mainstream, je donne la parole à Natacha dans un instant, mais quand vous parlez de mainstream, il y a même, on peut parler de légitimité quand on regarde des mouvements qui se réclament du nazisme ou de son héritage ou du fascisme, pas seulement des groupuscules, quand on voit le parti Obdoré en Grèce par exemple, un mouvement dont les origines sont néo-nazis, AFD en Allemagne, en Suède, etc., éventuellement même la Ligue qui a des inspirations et des origines fascistes en Italie, eux, ils se réclament encore de quoi ? De ce qui se passait dans l'Europe des années 30 ?
Alors non, je crois pas justement. Je pense qu'il faut bien différencier. On a quelques groupes, effectivement, et ça va plutôt être dans l'Europe de l'Est, vous l'aurez noté, comme Obdoré, qui vont se revendiquer encore assez largement des héritages des États fascistes. Mais ce qui fait le succès des extrêmes droites populistes en Europe, c'est bien de dire nous ne voulons pas faire un État, nous voulons une gouvernance. Nous voulons un gouvernement qui conserve les mêmes institutions, mais que nous utiliserons au bénéfice du peuple, évidemment, disent-ils. Mais c'est bien la rupture avec le XXe siècle qui permet le succès des extrêmes droites populistes. Évidemment, le cas d'Obdoré est très particulier en Grèce.
Et celui de l'AFD ?
Et l'AFD, c'est quand même à la base un durcissement, une radicalisation d'une droite, pas une tradition qui vient d'être... Après, elle s'est beaucoup radicalisée sur le modèle effectivement de l'extrême droite populiste, où j'en suis entièrement d'accord avec vous.
Natacha. Pour revenir sur la question que posait Gilles, il me semble que le cœur du problème aujourd'hui, c'est de savoir quel est le lien et quelle est la porosité, en fait, entre les différents positionnements et les différentes idéologies. Après l'attentat de Christchurch, il est né en France une polémique sur la responsabilité de la théorie du grand remplacement de Renaud Camus. Et derrière, certains ont immédiatement fait des liens. C'est-à-dire, si cet homme avait lu Renaud Camus, si certains en France sont liés avec Renaud Camus, alors ils sont responsables, etc. Et de chaîne en chaîne, on en arrive à une extension de la culpabilité. Donc comment distingue-t-on, en fait, la question suprémaciste blanche avec les partis populistes tels qu'ils apparaissent aujourd'hui? Quel est le degré d'imprégnation de l'idéologie suprémaciste dans ces partis populistes? Est-ce que finalement, parce que il me semble quand même que c'est ça le problème, est-ce que ces partis populistes, notamment en France, le Rassemblement National, est-ce qu'il a atteint un tel degré parce que il répond à des problématiques économiques et sociales, une carence, ou est-ce sur cette idéologie-là, une idéologie identitariste?
Juste un élément d'information pour compléter ce que vient de dire Natacha, parce que pour le coup, on a pu objectiver cette question-là dans l'enquête. Je suis désolé, je cite une nouvelle fois la Fondation Jean Jaurès.
Allez-y.
Dans l'enquête que nous avons faite sur le complotisme, dont une des questions était la formulation exacte de la théorie du grand remplacement telle qu'elle est formulée par Renaud Camus. 25% des Français y adhèrent. Quand on regarde par sympathie partisane,
25% des Français.
25% des Français. En même temps, c'est celle qui est la plus rejetée. Mais
dans la publication par Libération, c'était 49%, si je me souviens bien, qui adhéraient à l'idée, et c'était la publication de l'étude Jean Jaurès. Alors, c'est pas la même ? Alors,
dans la dernière, celle
c'était
qu'on
49%
a fait
il y a un an.
Au début de cette année, c'était 25%. Mais chez les sympathisants du Rassemblement National, on monte à 60%. Et donc, la pénétration de cette idéologie est quand même allée très loin.
Elle va très loin, et la différence, je me rappelle, de la question entre les deux, les 49 et les 25, la seconde question le précisait plus dans le sens biologique. Donc ça fait qu'il y a moins d'adhésion, mais on voit effectivement cette adhésion à 25.
Pour répondre à Natacha.
Énormément de questions.
Oui, mais c'est intéressant parce que quand elle parle de Christchurch, par exemple, partons de là.
Alors si on parle de Christchurch, c'est effectivement tout à fait intéressant. On voit que c'est un terroriste qui est très, pardonnez-moi le terme, mais très postmoderne. Il se réfère à la fois à Oswald Mosley, père historique du fascisme britannique, et à des choses tout à fait récentes. Comment répondre à cela? Je crois d'abord que la législation française est assez pertinente dans sa façon de chercher à cibler les incitations à la violence, à la haine, à la discrimination, et non pas à empêcher le débat politique. Dans ce pays, on doit pouvoir s'exprimer librement, bien évidemment.
Mais c'était pas la question que posait Natacha, en l'occurrence.
Elle l'a posée aussi.
La
question des responsabilités, elle nous renvoie toujours à la question des responsabilités idéologiques. Et là, il y a le rapport d'Europol. Le rapport d'Europol, c'est-à-dire la police européenne, l'année dernière, qui est tout à fait passionnant sur le terrorisme d'extrême droite, nous montre que dans toute l'Europe, on a deux cibles privilégiées depuis 2015. Ce sont les immigrés et ce sont les militants de gauche. Militants de gauche ciblés, qu'on soit en Norvège, en Grèce, en Allemagne, en France, en Belgique, parce qu'ils sont vus comme les fourriers du mondialisme, du grand remplacement, ceux qui permettent non pas un monde social, c'est pas la cause sociale. Pour eux, la gauche, c'est justement ceux qui favorisent l'arrivée des immigrés. Donc, on voit bien que cette représentation-là a bel et bien des effets pratique sur les degrés de violence. Donc tout l'enjeu pour la démocratie libérale reste l'enjeu habituel, permettre la liberté de parole, de pensée, de critique, mais arriver à contenir les applications violentes de ces choses-là.
Et l'autre question de Natacha à propos du Rassemblement National qu'elle va
tout
reformuler,
oui. Oui, je vais la reformuler
ou rupture.
Simplement. Voilà. Quel est le degré d'imprégnation des théories dont vous parlez dans votre livre dans le Rassemblement National? Et est-ce que c'est ça qui l'a amené à l'étiage auquel il est aujourd'hui? Ou est-ce que c'est plutôt la question sociale et politique, la paupérisation des classes populaires et des classes moyennes? Vous voyez, il y a quand même un enjeu idéologique important à comprendre ça.
Je crois que ces problématiques sont tout à fait liées, mais que chez les électeurs, elles sont encore plus liées dans les causes, c'est-à-dire que justement les électeurs du Front National considèrent bien que ce serait des pompes aspirantes à immigration qui expliquent les difficultés sociales et que ce serait bien la préférence nationale qui permettrait de dégager un budget permettant de faire les politiques sociales. C'est-à-dire que la thématique ethnique, nationale et sociale chez les principaux acteurs, les électeurs, après tout c'est eux qui comptent quand on parle de ça, est justement liée.
Gilles.
Oui, moi après avoir lu votre livre, j'avais une question non pas sur ce qu'il y avait dedans, mais sur ce qu'il n'y avait pas. Parce que vous parliez tout à l'heure de la responsabilité idéologique. Une idéologie, elle vit, elle survit avec des hommes, vous les analysez, avec des institutions, avec des réseaux, mais aussi avec des idées et notamment avec des écrits. Dans l'idéologie nazie, il y avait un rôle central d'un livre qui est Mein Kampf, qui a été évidemment vendu en Allemagne de manière absolument considérable avant la guerre, mais qui, après la Seconde Guerre mondiale, continue dans le monde entier, en tout cas dans beaucoup de pays, avoir un succès, y compris récemment, un succès très important. Il y a des pays, que ce soit des pays inattendus, en Inde, en Turquie, dans les pays arabes évidemment, en Russie, en Chine, en Argentine, on trouve non seulement Mein Kampf, mais Mein Kampf est beaucoup vendu. Et donc ma question est, dans cette question, les nazis ont-ils survécu? Quel est, y a-t-il un rôle de ce livre d'Hitler?
Nicolas Lebourg.
Alors, il y a Antoine Wittkin a fait un ouvrage sur l'histoire de la diffusion de Mein Kampf, mais je pense qu'il est quand même pertinent de pas rester uniquement sur la question de l'hitlérisme, parce que justement, ce qui est intéressant à la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a un vrai travail idéologique dans les extrêmes droites radicales pour essayer de dépasser ce qu'ils considèrent avoir été les fautes de l'hitlérisme. Et en particulier sur la question européenne. Et c'est là que c'est le plus passionnant, avec des théoriciens comme Jean Thiriard, qui est un Belge, qui vont défendre une Europe jacobine, qui ira en fait de l'Afrique à l'Asie, qui aurait pour capitale Istanbul, donc des projets assez étonnants dans l'extrême droite radicale, mais de manière très cohérente intellectuellement, hein, je veux dire avec quelque chose qui se tient, qui est un vrai projet politique. Et l'essentiel quand même des acteurs de l'extrême droite radicale vont considérer que les États fascistes ont échoué, un peu si vous voulez comme les trotskistes qui vous diront que l'Union soviétique était un État ouvrier dégénéré. Hein, il y a un peu ce rapport-là et qu'en particulier c'est la promesse européenne qui était un échec.
Mais on voit Nicolas Le Bur aux États-Unis comme en Europe, des gens défiler avec des croix gammées, ça existe encore, c'est assez présent, avec une nostalgie du Troisième Reich, ça existe aussi.
Alors il y a une subculture qui existe et c'est cette culture justement, cette sous-culture sans sens péjoratif, c'est une petite culture partagée.
Enfin sous-culture quand on voit aux États-Unis, par exemple, ce qui s'est passé il y a quelques temps à Charlottesville, c'est souvent spectaculaire, parfois même extrêmement violent.
Tout à fait, bien évidemment. C'est pas parce que c'est une sous-culture qu'elle n'est pas violente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle a des signes partagés qui se diffusent. Entre autres, vous faisiez une référence à la pop culture. Mais il y avait le procès de Clément Méric il y a quelques mois. Les tatouages de ces militants étaient tout à fait passionnants. Il y en avait un qui arborait ce qu'on appelle un soleil noir. Le soleil noir, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la sous-culture néo-nazie. Et par contre, que vous allez retrouver dans des jeux vidéo, dans des jeux de rôle, etc., utilisés dans les décorums. Il y a justement tous ces systèmes de transfert qui sont tout à fait passionnants, moi, je trouve, à observer.
Natacha. Mais justement, c'est ce que vous soulignez sur le fait que ça se retrouve dans des jeux vidéo pose un problème. C'est la question de la diffusion sous-jacente des codes et des signes de reconnaissance. Et après, la question, c'est aussi de savoir quelle est la part de gens potentiellement dangereux qu'on peut avoir. Il y a quelque temps un gilet jaune plutôt d'extrême droite, Chalandon, qui est allé parler en Italie pour expliquer qu'il y avait des gens en France, prêts à prendre les armes, etc. Il y en a, en effet, qui s'entraînent dans des bois. Il y a des petits groupes. Certains ont été arrêtés parce qu'ils projetaient des attentats contre des musulmans il y a à peu près un an. Donc, combien sont-ils? Et est-ce, encore une fois, est-ce qu'il y a la moindre porosité entre ceux-là, ceux qui s'entraînent dans les bois de façon militaire pour, comme ils le disent, libérer la France un jour, et ensuite des gens qui adhèrent à des partis politiques? C'est une problématique assez différente.
Oui, Nicolas Le Bur. Alors moi, j'ai travaillé sur les archives des renseignements généraux depuis 1976 sur la violence et le terrorisme d'extrême droite. Alors, pour voir les choses de manière très objective, les milieux radicaux depuis les années 70 en France sont estimés par les services de police à environ 2500 personnes. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'avec l'évolution démographique, il n'y a pas de gain. Ce sont essentiellement, évidemment, des activistes, pas des terroristes. La violence d'extrême droite passe devant la violence d'extrême gauche en 1980, pour être précis, et elle bascule à partir de 1982 sur une violence raciste anti-maghrébine. Néanmoins, ce qui se passe depuis 2015 est tout à fait passionnant et préoccupant.
2015, c'est la crise des réfugiés.
C'est la crise des réfugiés, les attentats de Paris. C'est ça.
Et les attentats, évidemment.
C'est cette concordance qui est vécu comme un accélérateur. Et quand on regarde le groupe AFO sur lequel j'ai travaillé aussi, ce qui est passionnant à voir, c'est qu'avant le 13 novembre...
AFO ?
C'est ce fameux groupe Natacha qui a été démantelé.
Voilà. L'action des forces opérationnelles, ce qui est passionnant, l'intitulé, c'est une référence maçonnique. Ça vous montre qu'on est loin de l'extrême droite radicale classique. Ce sont des gens qui viennent de la droite classique. En 6 mois, ils se retrouvent sur les positions idéologiques qui sont celles, en gros, du néo-nazisme américain des années 70. Ils ne l'ont pas lu. Ils sont absolument pas au courant que ce sont des positions qui viennent du néo-nazisme américain. Ils continuent à se référer au gaullisme en interne. Mais par contre, ils en sont là. Parce que, effectivement, ces crises de 2015 les ont profondément radicalisés. Là-dessus, le rôle des partis politiques d'extrême droite peut être aussi, je vais peut-être en choquer quelques-uns, un rôle pacificateur. Parce que ça peut permettre de stabiliser... Ouais, moi je crois que ça peut vous permettre de stabiliser un certain nombre de gens qui se radicalisent. Ceux qui se radicalisent le plus, les deux groupes, en particulier quand ils ont été démantelés en France, ce sont des gens qui considèrent que Marine Le Pen au pouvoir ne changerait rien, effectivement, au grand remplacement et à ce djihad que vivrait l'Europe. Et que donc, il faut déclencher une terreur qui seule pourra faire une remigration. C'est ce que disait le patron du groupe OAS qui a été démantelé à Marseille. Donc, les partis politiques d'extrême droite ont aussi un rôle de stabilisation par leur façon de sociabiliser ces gens-là dans un système légal.
Et des groupes comme Génération Identitaire, par exemple ?
Génération Identitaire, c'est exactement né de cette réflexion-là. Ce sont des activistes, des gens qui avaient connu des soucis judiciaires pour leur engagement militant violent et qui ont compris que dire à leurs militants, monte sur le toit d'une mosquée, t'auras pas une, tu feras peut-être une petite garde à vue, ça te fera un souvenir militant, mais t'auras pas un casier judiciaire, t'auras pas en prison, c'est pas violent, c'est beaucoup plus efficace idéologiquement et politiquement pour pénétrer les esprits.
Dans ce grand continuum de l'extrême droite la plus radicale, la plus violente, jusqu'à celle dont je ne sais pas si elle est plus présentable, mais dont vous dites qu'elle peut avoir un rôle pacificateur, quand on regarde la campagne du Rassemblement National depuis quelques mois, on peut avoir l'impression, mais je suis moins expert que vous et donc c'est pour ça que ça m'intéresse, qu'il y a un changement de stratégie par rapport à ce qu'était la campagne présidentielle de 2017. En 2017, Marine Le Pen avait une cible prioritaire qui était les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et cette idée qu'on pouvait faire la jonction, une convergence des extrêmes autour de la question européenne, notamment autour de la critique de l'Union européenne. Or, depuis plusieurs mois, on a le sentiment qu'il y a une stratégie radicalement nouvelle dans laquelle la cible devient les électeurs de la droite traditionnelle et que pour les conquérir, d'une part, on abandonne ce qui pouvait effrayer notamment l'électorat le plus âgé qui était la sortie de l'euro et que d'autre part, on recentre la campagne, et c'est pour ça qu'on revient à cette idée, cette continuum de l'extrême droite sur la question de l'immigration.
Nicolas Lebourg.
Entièrement d'accord. Le Front National est redevenu un parti de la demande. Marine Le Pen et Florent Philippot avaient essayé de construire une offre, que moi j'avais qualifié de souverainisme intégral. Cette offre était un échec parce qu'elle vous faisait faire d'excellents premiers tours et perdre le second, c'est contrariant. Et en particulier, on voyait par exemple que ce que les sondeurs appellent les professions intellectuelles, Marine Le Pen faisait moins que Jean-Marie Le Pen. Parce que justement, Jean-Marie Le Pen défendait la monnaie européenne, par exemple, dans les années 80.
Paraissait il était régagnien.
Plus adapté à, effectivement,
très libéral,
à la droite.
Régagnant. Ah oui, il était régagnien, Jean-Marie Le Pen, sur les questions économiques. Il était, il critiquait l'État, il estimait que l'État était le problème et non pas la solution. Enfin, voilà,
Et il défendait la monnaie européenne, voilà, etc. Bref, il était plus compatible avec certaines choses. Le Front National a échoué là-dessus, il revient à la demande. La demande de ses électeurs, c'est la question de l'immigration. Et on le voit bien, la campagne de M. Bardella est une campagne qui prend zéro risque. Il n'y a pas un thème qui soit un petit peu clivant par rapport à son électorat. Il s'agit bien de ressouder toute la famille, effectivement, et d'arriver à cette stratégie logique. Quand vous êtes un parti d'extrême droite, vous chassez sur les terres des partis de droite avant de chasser sur ceux de Jean-Luc Mélenchon.
Expliquez-nous ce paradoxe que vous formulez, Nicolas Lebourg, quand vous dites que finalement le plus grand danger ne réside peut-être pas dans l'antisémitisme ou l'islamophobie, mais pour certains justement qui sont les héritiers peut-être lointains du nazisme, dans la disparition, la peur que disparaissent les sociétés européennes, la civilisation européenne. C'est ça le marqueur aujourd'hui.
Je crois qu'il y a quelque chose, on a très, à mon humble avis, assez mal posé le débat sur le racisme en France ces dernières années, en opposant deux visions, et en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire, si je prends le point de vue le plus ultime du racisme, bien évidemment, si je nous ramène justement durant la guerre avec l'extermination, il faut bien comprendre que, par exemple, pour les membres de la SS, la question de la purification raciale, c'est la même chose que la question de la construction européenne. C'est la même chose que cette guerre pour l'Europe. Oui, ce sont les deux faces de la même monnaie. Purifier l'Europe racialement, c'est la construire politiquement et socialement pour eux. Le racisme, c'est pas un système de discrimination, c'est un système idéologique où vous avez d'une part le fait de créer un groupe organique. Par exemple, Brasillac définissait le fascisme comme le sentiment de l'amitié à l'échelle de la nation. On est dans ce genre d'idée-là. Et de l'autre côté, inversant, d'épuration. Or, les combats dans lesquels on est de concurrence des victimes, de concurrence des racismes, de concurrence, l'esclavage, l'extermination, le colonialisme, etc., tout ça posé les uns à côté des autres, nous fait complètement rater le débat de fond, qui est le rapport entre l'État et la société et l'aspiration à des sociétés qu'on appelle organiques.
Un mot quand même sur la loi de Godwin. Quand on parle, quand vous posez cette question, les nazis ont-ils survécu? En l'occurrence, oui, dans le débat public, ce que on a appelé la réductio ad Hitlerum, c'est-à-dire la disqualification de l'adversaire en lui disant qu'il avait touché ce point de comparaison avec Hitler, avec le Troisième Reich ou avec le fascisme. Ça, comment expliquer que ça reste malgré tout aujourd'hui, dans le débat public, la meilleure manière de tuer une argumentation et la possibilité de la conversation?
C'est d'une tristesse absolument infinie. Le point Goldwyn, c'est bien évidemment lié au trauma. Je rappelle que quand même la Seconde Guerre mondiale pour les Européens, c'est 90 millions d'Européens déplacés ou tués. On comprend que ça fasse quelques traumas. Mais bien évidemment, la réduction ad Hitlerium est quelque chose d'extrêmement négatif pour le débat politique, bien évidemment.
Merci infiniment Nicolas Lebourg. Les nazis ont-ils survécu? Enquête sur les internationales fascistes et les croisés de la race blanche. C'est publié aux éditions du Seuil. Natacha et Gilles,
à samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Fred Milano, à la technique Mathias Saléon. Et quant à moi, je vous dis à demain midi pour Questions politiques avec Manon Aubry de la France Insoumise et François-Xavier Bellamy des Républicains. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.